Radio Okapi.
Les informations avec Jacques-Yves Moulima.
Les combats entre les FARDC et M23 se poursuivent vers Kakou, près de Roubari, et dans les environs de la base militaire de Rumangabo, au Nord Kivu. De ces faits, la psychose gagne la population. Le trafic routier Goma-Rutshuru sur la nationale numéro 2 vers Rutshuru est devenu timide. Plusieurs cas de poliovirus sauvage enregistrés dans la province du Haut-Lomami. 4 zones de santé sur 16 sont touchées. Toutefois, plusieurs actions sont prévues dans la riposte pour éviter la propagation de cette maladie qui rend infirme toute la vie, a dit le ministre provincial de la Santé. Enfin, détournement de fonds publics à la division provinciale du cadastre et des titres immobiliers dans la province du Sud Kivu. C'est le ministre provincial des Travaux publics et des Affaires foncières qui le dénonce. Placide Winda en parle dans cette édition. Il est notre invité. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les combats se sont encore intensifiés depuis tôt ce jeudi entre les FARDC et les rebelles du M23 dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru. C'est entre autres vers Kako, près de l'agglomération de Roubari, Nyesisi et Kanombe, dans les environs de la base militaire de Rumangabo en groupement Kisigari. Du coup, le trafic routier Goma-Rutshuru sur la nationale numéro 2 devient de plus en plus timide à cause de la psychose. Babel Pongo Masimango.
C'est depuis 5 heures locales que ces affrontements ont commencé vers Kanombe et Nyesisi, dans le groupement de Kisigari, plus proche de la base militaire de Rumangabo, indiquent plusieurs sources dans la région. Celles-ci ajoutent qu'au même moment, d'autres détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues vers le village Chumiroa, près de Kako. C'est à la sortie de l'axe Tamugenga, dans les environs de la route nationale numéro 2. Cette situation crée la panique dans cette partie du territoire de Rutshuru. Quelques habitants des agglomérations de Rugari, Kalingira, vers Kabaya et Rumangabo Mangabo commence à quitter la zone. Le trafic routier est très timide depuis ce jeudi matin. Seuls quelques véhicules ont pu traverser cette zone située entre Rumangabo, Kalingera, Roubaré depuis ce matin, témoignent nos sources dans la région. De certaines sources officielles, nous apprenons que l'armée maintient toujours ses positions de Kabindi et Rwanguba sur l'axe Rutshuru-Bunagana. Cela, même si dans cette zone aussi, quelques détonations ont été entendues ce matin. D'autres sources concordantes précisent par contre que la zone de Matebe dans le village Rangira 1 serait occupé depuis hier mercredi par les rebelles du M23, mais cela n'est pas encore confirmé par les sources officielles.
Ces affrontements entre les FARDC et les M23 dans le territoire de Rutshuru a fait que la centrale hydroélectrique du parc national de Virunga soit une fois de plus victime de bombardements. Selon les sources de Virunga Energy, une bombe a touché une énième fois l'installation hier mercredi. C'était lors de combats dans la localité de Rangira. Kelioka.
Dans un communiqué publié hier mercredi dans la soirée, Virunga Energy demande à sa clientèle de bien gérer le courant du fait qu'il y aura des perturbations dans la desserte pendant une courte période pour la ville de Goma et ses environs. Cependant, pour l'axe Rwanguba-Bunagana, il y a coupure de courant depuis hier mercredi car la ligne a été coupée après cet impact de bombe, indiquent les sources de Virunga Energy. Cette société de PNV précise que les réparations des dégâts subis devraient exiger le déploiement des techniciens sur le site. Ce qui paraît impossible actuellement en raison de la position géographique de Matebe qui est située au cœur de la zone des combats. La même source a ajouté que le chantier de la centrale de Rwanguba, de la même entreprise, a aussi subi quelques dégâts pendant les mêmes combats. Rappelons qu'au mois d'août dernier, le chantier de la centrale de Rwanguba a encore été victime des impacts des bombes lors des affrontements. L'entreprise plaide pour la protection de ses infrastructures pendant ces combats qui se poursuivent.
Pendant ce temps, le pape François a dénoncé mercredi 26 octobre l'incursion armée des ADF à Maboya dans le territoire de Beni au Nord Kivu dans la nuit de mercredi à jeudi 20 octobre dernier. Au cours de l'audience générale du mercredi à la place Saint-Pierre à Vatican, le souverain pontife a condamné cette attaque qui a coûté la vie à 7 civils, dont une religieuse, médecin au centre de santé de Maboya, rapporte Vatican News. Les détails avec Blaise Shindani Kambala.
Le Saint-Père a commencé par prier pour les 7 personnes tuées, dont la religieuse médecin, la sœur Marie-Sylvie Kavouk-Vakachouraki, membre de la congrégation des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame du Temple de Beni Butembo, dont les corps a été retrouvés calcinés au centre de santé de Maboya. Je déplore vivement l'agression inacceptable qui s'est déroulée ces derniers jours à Maboya, dans la province du Nord Kivu, où des personnes sans défense ont été tuées, dont une religieuse travaillant dans les domaines de la santé, a déclaré le pape François. Il a notamment prié pour cette région de l'Est de la RDC ensanglantée par l'insécurité. En priant pour les victimes de Maboya et leurs familles, le pape a également porté dans sa prière la communauté chrétienne et les habitants de cette région épuisés par la violence depuis trop longtemps. C'est notamment mu par sa proximité spirituelle pour cette région ensanglantée que le souverain pontife avait décidé d'y effectuer un pèlerinage de paix et de réconciliation, souligne Vatican News. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure, particulièrement dans l'est du pays où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup, avait-il déclaré quelques mois plus tôt en s'adressant à la population du Congo dans un message vidéo, rappelle ces médias de l'Église catholique romaine.
Autre nouvelle, la coordination provinciale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Sud Kivu a débuté mercredi dernier un atelier à l'hôpital, à l'hôtel Panorama, atelier d'élaboration du plan opérationnel provincial de ce programme avec l'appui de la MONUSCO et du PNUD. Et ce, en vue d'assurer la vulgarisation de la stratégie nationale et faciliter au programme de se doter des outils de travail pouvant lui permettre de concrétiser la mise en œuvre de ses actions prioritaires et atteindre ses objectifs. Rachel Kissimbangu nous fait le point.
La coordination provinciale du PDDRCS a estimé utile d'appeler toutes les parties prenantes au développement à venir apporter leur contribution à l'élaboration du plan opérationnel provincial. Le PDDRCS est convaincu que les problèmes des développements de communautés du Sud Kivu seront élucidés et des pistes de solutions élaborées. Sur quoi portera ce plan opérationnel provincial? Tommy Tamboué, coordonnateur national du PDDRCS.
Ce plan opérationnel provincial portera sur les activités concrètes à exécuter dans nos territoires, dans nos chefferies, dans nos secteurs, dans nos groupements, en vue d'apporter la solution aux problèmes de paix et de cohésion sociale, du relèvement des communautés et de la réintégration, ainsi qu'à ceux de la stabilisation. Vu sous cet angle, l'élaboration du plan opérationnel provincial dépasse les simples cadres techniques du fait que concerne la vie des communautés, l'amélioration de leur environnement social et sécuritaire, mais aussi l'amélioration de l'environnement économique.
L'atelier prend fin ce samedi 29 octobre. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, dans la province du Maniema, le militaire ayant tué un motard le 18 octobre dernier à Luama et procédé à son enterrement dans une parcelle en chantier avant de lui ravir sa moto, est condamné à la peine capitale. C'était hier mercredi 26 octobre après une audience en foraine organisée au camp militaire Luama. La province du Haut-Lomami enregistre plusieurs cas de poliovirus sauvage. 4 zones de santé sur les 16 que compte la province sont déjà touchées. D'après le ministre provincial de la Santé, plusieurs actions sont prévues, dont la riposte pour éviter la propagation de cette maladie qui rend infirme toute la vie. Cela se fera avec l'appui des partenaires qui appuient la province. On écoute Jean Tayari, qui soit Bantou, ministre provincial de la Santé, dans le Haut-Lomami, au micro de Jean Gandou.
Il y a notamment la zone de santé de Mukanga avec 3 cas, précisément dans l'aire de santé de Kasenga 1 et Kasenga 2. Il y a la zone de santé de Kimkonja avec un seul cas, là précisément c'est l'aire de santé de Kipamba. La zone de santé de Kitenge, un cas dans l'aire de santé de Kileo. Et enfin, la zone de santé de Malembankulu qui a 5 cas. Nous avons dépêché au niveau intermédiaire une équipe de la DPS pour l'investigation. Ils ont prélevé des échantillons que la province a envoyés au laboratoire de Lubumbashi. Le diagnostic a été confirmé dans les 4 zones de santé qu'il y a circulation du virus de poliomyélite. Par rapport aux actions à amener, c'est l'organisation d'un riposte, la sensibilisation dans la communauté avec la recherche systématique des enfants 0 dose. Cela va permettre la récupération de tous ces enfants qui échappaient à la vaccination des routines.
Et puis, une maladie inconnue a déjà fait des victimes dans la zone de santé de Mulongo, dans les territoires de Malembako. Makulu dans la province du Haut-Lomami. D'après le ministre provincial de la Santé, 4 personnes ont présenté cette maladie avec de mêmes signes, paralysie des 4 membres. 3 d'entre elles ont succombé. La 4e est encore admise à l'hôpital général de Malemba. Des échantillons ont été prélevés pour des analyses afin de déterminer la nature de cette maladie. Notons que les personnes atteintes sont toutes des adultes. Autre nouvelle, le gouvernement provincial de l'Ituri a remis officiellement ce mercredi 3 bâtiments sanitaires ainsi qu'un bloc opératoire à l'hôpital général de référence de Bounia, chef-lieu de la province. Cette dotation vise à augmenter la capacité d'accueil des malades au sein de cet hôpital qui reçoit quotidiennement des blessés de guerre. Mais aussi, c'est pour permettre l'accès aux soins de santé de qualité à toute la population de Mini. Selon le chef de la division provinciale de la santé, cette action va contribuer à la réduction des taux de mortalité en province. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Le premier bâtiment, baptisé Jean-Jacques Mbongandi, l'actuel ministre de la Santé publique en RDC, abrite les services d'urgence et des soins intensifs. Il a une capacité d'accueil de 18 lits, dont 8 pour les services d'urgence et 10 autres pour les soins intensifs, ainsi que les bureaux pour les gestionnaires. Juste à côté se trouve un autre bâtiment pour l'isolement des malades d'Ebola et du choléra, mais aussi un bloc opératoire avec 10 chambres et des bureaux des gestionnaires, ainsi que des toilettes. Le troisième bâtiment est destiné à la centrale des transfusions sanguines avec 10 réfrigérateurs. Le chef de la division provinciale de la santé déclare que ces infrastructures vont permettre d'administrer aux patients des soins de qualité. Le docteur Louis Chulo.
Par rapport aux maladies à potentiel épidémique comme Ebola ou MVE, avant on hébergeait les gens dans des bâches où il faisait très chaud. Les conditions n'étaient pas réunies. Actuellement, avec les 6 chambres, nous sommes en mesure d'humaniser les malades ici.
Le vice-gouverneur de province invite les bénéficiaires à une gestion efficiente de ces bâtiments, mais aussi à les utiliser pour sauver des vies sans distinction tribale. Benjamin Alongaboni.
Je ne lance que le message d'amour. Les beaux bâtiments, les bonnes initiatives, là où l'on parle de mal en nous, nous progressons. Mais Ituri construit, fait des innovations.
Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, les travaux de réhabilitation de la route Kimwenza mission se poursuivent jusqu'à ce jour dans la commune de Mongafula. Le remblayage de 2 grands ravins, surtout celui situé au niveau de l'arrêt communément appelé 7 km, a été légèrement endommagé, mais refait 2 jours après. Les passants et les riverains souhaitent voir l'accélération des travaux compte tenu de la saison de pluie qui n'est qu'à son début. Innocent Fadili s'est rendu sur place à Kindele et à Kimwenza. Voici son reportage.
Cette route qui va de l'avenue Bypass jusqu'à l'université Loyola et Kimwenza, en passant par l'Unikin et Kindele, est légèrement endommagée. D'abord à l'ISTEM et au CNPP, les eaux des pluies ont emporté la terre des parts et d'autres. Ensuite, un peu plus loin à l'arrêt communément appelé Saïsaï, juste après l'arrêt Mabanga, une partie de l'argile n'y est plus. Conséquence, les caniveaux sont presque suspendus, ce qui rend difficile le passage des véhicules. Enfin, à l'arrêt communément appelé 7 km, où un grand ravin est presque remblayé, la construction des gradins est presque à son terme. Il s'agit ici de combler le vide laissé par l'eau des pluies et reconstruire la partie du caniveau détruit. Voilà pourquoi les passants et les riverains souhaite une accélération des travaux.
Dans cette route, vraiment, il y a toujours des catastrophes. On regrette les temps qu'on commence à partir même à 9h. On termine 14h, 15h, c'est fini.
Après la pluie, nous avons remarqué que les Chinois, comme d'habitude, ils ont repris à zéro. C'est ce qui a fait encore que les travaux soient encore ralentis.
Maintenant, comme ils sont en route d'arranger, je pense qu'ils ont quand même eu une idée de faire mieux que ce qu'on avait fait la fois passée.
Notons que cette réhabilitation a de nouveau repris après un arrêt des travaux des 18 mois par manque de financement.
Enfin, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité hier mercredi le projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite des personnes. Ce projet de loi proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé. Pour le président de la commission permanente droits de l'homme de l'Assemblée nationale, désormais, certaines infractions du code du travail seront punissables par le code pénal. Simon-Pierre Yanagnon est au micro de Michel Kifindangoy.
Et on s'est rendu compte que beaucoup des Congolais, des enfants, mais des personnes vulnérables aussi, sont exploités par le travail forcé. Certaines personnes sont prises dans les villages sous prétexte qu'elles vont étudier ou avoir un bon travail en ville et elles sont transformées en travailleurs, mais par un travail forcé, sans rémunération et parfois vivant dans des conditions indignes de la personne humaine. Et c'est pour ça que nous, comme représentation nationale, nous avons pris l'initiative de modifier les codes pénals congolais pour que nous puissions l'adapter à tous les instruments internationaux, notamment la Charte africaine des droits de l'homme. Alors nous avons fait ce texte pour harmoniser les textes internationaux, la constitution de la République et adapter le code pénal par rapport à ces textes-là. Donc c'est une loi très importante parce que ça en prend en compte le social. Il y a beaucoup de Congolais, pour survivre, ils acceptent n'importe quel travail. Mais nous voulons assez que ceux qui les emploient puissent respecter scrupuleusement la dignité humaine.
Actualité internationale.
Les forces armées burkinabées lancent la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis à contribution dans le cadre de la lutte antiterroriste.
L'invité.
Au Sud Kivu, le ministre provincial des Travaux publics et des Affaires foncières dénonce le détournement des fonds publics à la division provinciale du cadastre et des titres immobiliers. Les frais d'inscription hypothécaires et des titres immobiliers finissent dans les poches des individus. Des miettes sont versées dans les trésors publics. De telles pratiques font perdre au gouvernement provincial les moyens de sa politique, rendant certains responsables des services publics plus riches que l'État lui-même. Le ministre promet des sanctions pour permettre à la province du Sud Kivu de pouvoir décoller. Il est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient donc, Wenda Placide s'entretient donc avec Jean Kassami. Suivez.
Monsieur le ministre provincial des Travaux publics et Affaires foncières, bonjour.
Oui, bonjour, cher journaliste.
Un constat, plusieurs personnes qui viennent requérir les documents pour avoir un crédit dans des coopératives, une fois au niveau des services des titres immobiliers, par exemple, ils payent 100 dollars, mais on leur remet une quittance de 20 dollars. Cette sorte de tricherie à ciel ouvert, y a-t-il moyen de combattre cette pratique?
D'abord, je vais commencer par les agents des affaires foncières. Vous représentez l'État. Ça veut dire que les actes que vous êtes en train de déposer doivent refléter réellement l'amour de la patrie. Et ça, le grand problème que nous avons toujours, ce sont les individus qui sont bénéficiaires de cela. Voilà pourquoi nous avions initié au niveau du gouvernement qu'il y ait un arrêté qui sera très bientôt pris par l'autorité provinciale, afin qu'il y ait une commission qui va travailler sur les hypothèques dont vous faites allusion, à des mutations, afin de ne pas laisser tomber dans les bavures les conservateurs et les chefs de division des cadastres. C'est ça le rôle aussi qui nous revient à nous, à pouvoir redresser, réprimer ce genre d'attitude des antivaleurs que le chef de l'État est en train de combattre.
Au regard de ce que vous confirmez, c'est comme si les services techniques de l'État agissent en électron libre.
Franchement, il y a un problème. L'administration, les chefs de division sont mis sous tutelle de l'autorité provinciale. Nous sommes en train d'y combattre. Il n'y a pas si peu que beaucoup de chefs de division ont été suspendus. J'ai pu citer les chefs de division du cadastre et des titres immobiliers de Mwenga. Ils ont été suspendus pour cela. C'est un problème. Nous devons y trouver solution.
Les gens ont comme l'impression que non seulement les services techniques sont dirigés par des intouchables, mais aussi que les responsables seraient aussi peut-être en train de tremper dans ces erreurs.
Non, le problème c'est que pour sanctionner, il faut qu'il y ait quand même un rapport relevant de cela. Pour le cas des hypothèques par exemple, la banque qui connaît combien doit bénéficier les trésors publics ne devra pas accepter à pouvoir minorer la taxe. Ce n'est pas normal. Et l'impôt et la taxe, c'est ce qui nous aide, nous gouvernement, à pouvoir répondre aux desiderata de la population. On n'aura pas de route si le trésor public n'est pas afflué par les moyens. On n'aura pas de projet de développement si le gouvernement n'a pas les moyens de sa politique. Si tout le monde dénonçait et que nous étions alertés, je ne pense pas qu'il y ait un chef de division qui accepterait aussi de perdre son poste de travail simplement parce qu'il a été obligé de ne pas suivre les règles et les normes de la loi. Je crois que cette naïveté-là, de ne pas vouloir dénoncer et les dénoncer à temps, nous mettrait dans un trou où on ne sortira jamais.
Ce sont souvent ces pratiques mafieuses, monsieur le ministre, qui rendent les individus plus riches que l'État congolais, n'est-ce pas ridicule?
Très ridicule, je le confirme que c'est ridicule, que franchement, pour un certificat de 100 dollars, si on y ajoute le frais de descente et tout ce qu'ils appelleraient de frais administratifs, ça ne coûterait que 150 dollars. Mais allez poser un peu la question aux gens, vous allez trouver que c'est autour de 1800, 700, 500 dollars et ce n'est pas normal.
Monsieur le ministre, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie par contre.
Voilà, c'est la fin de cette édition du journal, mise en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination d'Élisée Tikota et la supervision de Martin Sebujangwe. Merci de nous avoir suivis.